Bulle d'histoire. Stéphane Dubreuil.
Wow.
Grande et petite histoire dans l'œil des auteurs de bandes dessinées.
Bonjour à toutes et à tous qui me rejoignez dans une nouvelle bulle d'histoire sur Art District. Aujourd'hui, je reçois Benoît Vidal, qui a réalisé un fantastique roman photo historique. Le titre est Gaston en Normandie. L'éditeur, c'est Fulubulubu. J'avais déjà reçu une autrice précédemment aussi pour un roman photo totalement barré, totalement décalé. Là, on n'est pas du tout dans le même style, mais on est quand même sur la même technique narrative. Bonjour Benoît, je sais que la prochaine question t'inquiète, mais il faut que je la pose, parce que je la pose à tout le monde. Qui es-tu ?
Oui, une question difficile en fait. Bon, si je suis ici, je suis ici en tant qu'auteur de romans graphiques, de romans photos. J'imagine qu'on aura l'occasion d'expliquer que ce n'est pas tout à fait des romans photos comme on a l'habitude de les imaginer. Mais je dois dire que j'ai une double casquette. L'auteur de romans photos, ce n'est pas mon métier principal. Et je suis aussi, par ailleurs, ça n'a rien à voir, enseignant-chercheur en sciences de gestion. Donc, voilà, c'est un peu original, mais j'ai cette double casquette.
C'est d'autant plus intéressant, alors.
Oui, alors, en sciences de gestion, on pourrait presque le mettre de côté, mais le côté chercheur, le côté auteur d'articles de recherche, le procédé, en fait, de révision, c'est quelque chose que j'ai retrouvé dans mes relations avec mon éditeur Fulubulubu, effectivement, on ne sait jamais trop comment le dire. Voilà, il y a quand même des parallèles entre les deux. Je suis aussi un ancien ado qui rêvait de faire de la bande dessinée, donc ces ouvrages qui sont construits, non pas avec des dessins que je fais moi, mais avec des images d'archives que j'assemble comme, mais qui se lisent comme une bande dessinée, puisqu'il y a des cases, des bulles, des bandes, enfin, ça se lit vraiment. Si ce n'était pas des photos, ça serait vraiment une bande dessinée hyper classique. Ça se lit vraiment de façon très, très classique pour un lecteur de bande dessinée.
Alors, c'est ton deuxième roman photo ?
Même mon troisième, c'est même mon quatrième, mais c'est le deuxième édité chez Fulubulubu. J'en ai édité un autre chez un éditeur qui s'appelle Eppel, qui est en fait un éditeur associé à l'école lacanienne de psychanalyse. Et donc, c'est un ouvrage qui parle d'un... C'est aussi sur le même procédé, hein, avec... Je vais interroger des spécialistes qui me parlent cette fois d'un artiste. Donc, c'est vraiment du documentaire. C'est beaucoup moins personnel, c'est moins mon bébé. Donc, peut-être qu'on en parlera moins, mais c'est un artiste qui a créé des œuvres qui remettent en cause les classifications psychiatriques et les classifications du monde de l'art et les classifications en général. Et donc, c'est un ouvrage assez décalé et je trouvais ça très drôle. Drôle et percutant d'utiliser un média ou un moyen d'expression qui est lui-même inclassable pour parler d'un artiste qui remet en cause des classifications. L'inconvénient, c'est que c'est un livre, et j'ai un peu le même problème avec Gaston Normandie et Pauline à Paris, c'est que les libraires ne savent pas où le mettre, où le classer, et les lecteurs sont aussi assez désemparés devant ces ouvrages. Et
j'espère que notre interview va en faire rencontrer un certain nombre avec Gaston en Normandie. J'allais dire Gaston à Paris, mais c'est Gaston en Normandie. Parce que le précédent, c'était Pauline à Paris, c'est ça ?
Oui, voilà. J'ai dit que j'en avais fait quatre. Alors, en fait, Pauline à Paris et Gaston en Normandie sont les deux qui ont été édités chez Fulubulubu. Et ils se complètent, enfin... Oui. Progression, ils se répondent l'un avec l'autre. Et en fait, celui que j'ai fait, mais que j'ai auto-édité, en premier, donc mon premier ouvrage, c'était en fait des histoires du débarquement racontées par ma grand-mère. C'était des planches, je faisais mes premiers pas quoi, avec ce média, et ça a donné lieu à un ouvrage, mais qui n'est pas édité.
Donc là, le principe, c'est que c'est donc des personnes de ta famille, ta grand-mère, qui est un peu l'héroïne des deux romans photos, ton père qui est l'autre narrateur, toi qui viens te rajouter, qui est un troisième narrateur, oui. C'est à la fois une histoire de famille et c'est en même temps une histoire de la Normandie, de la France. C'est assez intéressant, ça, ce côté, on part du petit pour aller vers le très grand.
C'est-à-dire que En fait, ma façon de procéder, c'est d'interroger des gens, je vais généraliser, hein, et donc de les photographier et d'avoir une bande-son. Le matériau initial, c'est la bande-son. Il y a toujours une bande-son que je vais ensuite illustrer. Et le narrateur que l'on va retrouver en photo conduit la narration, conduit l'histoire. Et donc, il parle. Et donc, j'invite le lecteur à écouter quelqu'un. Alors, c'est ma grand-mère qui est un peu le personnage central. Du moins, on la retrouve dans les deux livres. Dans Pauline à Paris, elle raconte l'histoire d'une dame qu'elle a connue. C'est une histoire vraie. Et donc, elle raconte une vie. Et donc, effectivement, à travers la vie de cette dame qui est née au 19e siècle, et donc qu'elle a connue. Quand ma grand-mère, qui est née en 1909, rencontre cette dame, elle a déjà une trentaine d'années, elle... est une enfant, donc voilà, c'est une vie qui est à cheval entre la fin du 19e siècle et le 20e siècle. Donc à travers cette vie, on a l'histoire de France, mais vue par une vie simple. Et puis, dans le deuxième bouquin, je vais croiser les souvenirs de ma grand-mère avec les souvenirs de mon père, qui avait 7 ans en 1944, et qui était à Bayeux, en Normandie. Et donc, ils ont été témoins du débarquement de 1944. Et donc, le sujet du deuxième livre, c'est le débarquement. Mais j'interviens en voix off, ce qui va aussi enrichir et donner une autre profondeur aux ouvrages. C'est que ce n'est pas uniquement des livres de témoignages, c'est aussi une réflexion personnelle que je mène sur qu'est-ce qui me motive à aller collecter la mémoire, et qu'on peut généraliser à toute personne qui s'intéresse à l'histoire, ou à la mémoire familiale, ou aux généalogistes. Et donc, c'est un travail un petit peu plus personnel.
C'est un travail personnel, mais en même temps, c'est un travail qui dépasse, je dirais, de beaucoup l'histoire personnelle, parce que si je pense sur la page 12, il y a une grande casque, une gravure, on va dire une gravure probablement des Égyptiens ou des Assyriens. Enfin, c'est une gravure comme le 19e en faisait beaucoup, avec des périodes un peu indistinctes, mais il y a quelques phrases qui sont assez belles, et je trouve qu'ils éclairent énormément la suite de l'ouvrage. Donc, tu commences, les histoires sont des matières molles, elles prennent des formes différentes en fonction du conteur qui les transforme et les interprète, mais aussi en fonction de l'auditeur qui cherche une histoire, pas celle que le conteur croit transmettre, mais celle que l'auditeur souhaite entendre, son histoire. Je trouve que c'est absolument parfaitement résumé le projet de Gaston en Normandie.
Oui, alors l'illustration, c'est Gustave Doré, c'est la Bible en fait. Que je ne dise pas de bêtises, oui, c'est la Bible. Je crois que c'est peut-être un épisode sur le roi David ou quelque chose comme ça. Dans Pauline à Paris, ma grand-mère raconte donc la vie d'une dame qu'elle a connue. Et en fait, j'explique au lecteur que quand elle me raconte cette histoire, bon, moi, surtout quand je suis enfant, il faut imaginer qu'il me passe plein d'images à travers la tête. Et je prends tout au premier degré. Bon, c'est une histoire vraie. Et quand je me mets à chercher des illustrations, je me mets à douter. Parce que quand elle me parle du défilé des mutilés, je ne sais pas ce que c'est. En fait, quand il faut trouver des illustrations, on se rend compte qu'un défilé mutilé, mais comment c'est possible? On ne fait pas défiler des mutilés. Bon, alors, c'est comme ça que je découvre qu'en fait, en 1919, il y a eu le défilé du 14 juillet, il y avait les mutilés. Donc, des fois, je trouve des explications, des fois, je n'en trouve pas. Et je me mets à douter de la véracité de l'épisode des anthropophages en Afrique, enfin, qui sont un peu trop clichés. Et donc, je me mets à imaginer que ma grand-mère, en fait, en tant que conteuse, va transmettre une histoire vraie, mais elle va aussi boucher les trous. Et elle va, pour boucher les trous, pour que son histoire ait un sens et soit complète, elle va elle-même interpréter ou rajouter des choses. Et c'est ce que je fais aussi, moi, quand je vais illustrer son histoire. Je me mets aussi moi-même à compléter ou à mettre mon propre imaginaire. Donc, dans une histoire, le conteur interprète et transforme. Dans une histoire vraie, j'entends. Dans Gaston en Normandie, je me suis amusé à partir du point de vue inverse, c'est-à-dire qu'il y a le conteur qui transforme l'histoire, mais il y a aussi celui qui écoute, parce qu'on ne retient pas tous la même histoire. Et quand on écoute une histoire, on n'en retient pas les mêmes choses. Une personne va retenir certains éléments, parce que ça résonnera avec sa propre vie ou avec ses propres questionnements du moment, d'ailleurs. On ne retient pas les mêmes choses à une époque ou à une autre. Et donc, voilà, ça fait un petit peu ce diptyque. Et en tant que récepteur, disons, d'une histoire qui est le débarquement, j'ai poussé un petit peu l'analyse pour essayer de comprendre qu'est-ce qui m'intéressait réellement derrière les faits derrière les faits historiques, j'allais dire les anecdotes, c'est un peu plus que des anecdotes, enfin, c'est des choses vécues et qui sont parfois assez tragiques ou disons ou au contraire joyeuses, hein, parce que c'est, ça accompagne aussi d'une certaine la joie de la libération. Enfin, on retrouve cet élément dans beaucoup de souvenirs de mon père et de ma grand-mère. Mais j'essaie de comprendre aussi qu'est-ce que moi j'entendais. Voilà, et on se rend compte qu'en fait, on a parfois des... Alors, c'est presque de la psychanalyse, d'un certain moment, à se dire que finalement, on entend autre chose. Voilà.
Oui, et surtout, ce qui est fascinant, c'est qu'il y a la grande histoire, on va dire, les faits avérés, le débarquement, les Américains, les Anglais, les Allemands, Eisenhower qui parle aux parachutistes, tout ça, on sait que ça existait parfaitement, c'est daté, c'est localisé. Et ensuite, le récit de ta grand-mère qui est effectivement indiscutable, c'est ce qu'elle a vécu et la façon dont elle l'a vécu et la façon dont elle s'en souvient. Mais il y a aussi le récit de ton père qui, là, était un petit garçon. Et là aussi, on peut se dire que le petit garçon, il a vu tout ce qu'il raconte, mais il a une part de fantasme et d'imaginaire très, très grand. Ça devait être assez vertigineux à entendre et à décrypter.
Oui, c'est le point de départ en fait de ce livre, c'était, je l'ai évoqué tout à l'heure, les souvenirs de guerre de 1944 de ma grand-mère, racontés par ma grand-mère, faisaient déjà l'objet donc de premières planches que j'avais auto-éditées. Et ça, ces histoires-là, on va les retrouver dans Gaston en Normandie. Mais le projet du livre, c'était de croiser les souvenirs d'une mère de famille, donc qui avait 4 enfants. D'un cinquième enfant en 1944 et de croiser ces souvenirs-là avec les souvenirs d'un petit enfant, enfin d'un petit garçon de 7 ans. Et on se rend compte qu'ils ont des souvenirs bien sûr communs, mais ils ne les racontent pas du tout de la même façon. Effectivement, mon père, il faut imaginer le côté extraordinaire. C'est un enfant, donc il a connu que la guerre. Il était trop jeune pour avoir des souvenirs avant, ouais. avant 39, avant 40, avant la guerre. Il a connu, donc il était enfant, 4, 5, 6 ans pendant l'occupation, donc avec, j'imagine, un mode de vie dans lequel voilà, on n'osait pas dire certaines choses, on ne pouvait pas écouter la radio, donc une chape de plomb. Et puis tout d'un coup, le débarquement arrive, quoi, et mon père, du jour au lendemain, tout d'un coup, il voit des gens qui changent complètement de comportement, qui vont se mettre à parler, qui vont se mettre à... et puis aussi, il y a des choses extraordinaires, des avions, des tanks, des militaires. Alors Bayeux, faut peut-être préciser, pour ceux qui ne connaîtraient pas un peu l'histoire du débarquement, c'est que Bayeux, je crois que c'est à peu près 20 000 habitants, c'est la première ville, disons, d'une certaine taille, à être libérée. Il n'y a pas de combat à Bayeux, quasiment pas. Et dès le 7 juin au matin, à l'aube, les Anglais arrivent à Bayeux, les Allemands ont quitté les lieux. Et donc, ils ont cette chance de ne pas avoir subi de bombardements et de pertes. Et Bayeux va devenir une ville en arrière du front, à quelques kilomètres du front. Et pendant 2 mois, ça va être des combats acharnés dans le bocage allemand. En fait, les Allemands ont essayé d'interdire la progression vers Caen à l'ouest et vers Cherbourg, à l'est et à l'ouest, quoi.
À l'ouest, oui.
Et eux, ils étaient finalement dans une ville qui est devenue une ville hôpital, dans une ville qui était aussi une ville de garnison, une ville de fête. Les soldats venaient là pour boire un verre. Et puis aussi, il y avait le passage des politiques, des journalistes qui venaient là. Et c'était une atmosphère assez étonnante. Et donc, mon père, lui, il se souvient de ces petits Anglais qui faisaient de la moto, qui lui donnaient des chewing-gums, qui lui donnaient des caramels, il démontait des mitraillettes. Enfin, un truc pour un gamin de 7 ans, un petit garçon qui n'aimait qu'une seule chose, c'est jouer au foot. C'était juste un moment extraordinaire, extraordinaire au sens vraiment littéral, quoi, extraordinaire. On sortait de l'ordinaire.
L'autre chose qu'on a du mal à s'imaginer maintenant, parce qu'on vit dans un monde qui est complètement, les choses et les gens circulent, les images circulent, c'est que pour tous ces Normands de 1944, voir arriver des Américains, des Anglais, la découverte d'un monde totalement inconnu. Ça, c'est, je trouve ça très bien raconté à la fois par ta grand-mère, par ton père et par toi, en plus, en voix off.
Oui, alors je ne sais pas si moi je rajoute grand-chose en voix off, en tout cas... Il suffit juste d'entendre effectivement mon père parler. Voilà, et ça se passe à travers, par exemple, la musique du jazz. Enfin, il dit des rythmes nouveaux, il donne même pas de nom, on ne sait pas trop ce que c'est, mais. Et puis des angles. Alors, il y a un passage qui est extraordinaire, c'est quand il parle des Anglais comme d'extraterrestres. Et il raconte, c'est très amusant, il raconte que pour lui, les Anglais, un Anglais, c'était un jeune homme avec une assiette sur la tête, avec des feuilles, là, avec une combinaison militaire, quoi, un ceinturon. Enfin, il le décrit, il s'en rappelle encore. Pour lui, c'est comme une photo. Et il dit qu'il a mis plusieurs mois, plusieurs années avant de comprendre qu'en fait, un Anglais pouvait aussi être habillé en civil et qu'il pouvait être que ça pouvait être un humain. Pour lui, Anglais égale cette chose qu'il a vue au moment du débarquement, un extraterrestre, quoi.
Sans compter les Écossais en kilt et tout ça, quoi.
Et alors, voilà. Et alors, quand il découvre des Écossais qui viennent faire une parade avec leur kilt et leur cornemuse, là, il n'y a même plus de mots pour le dire. Il ne savait même pas que ça existait. Après, aussi, c'est pareil pour l'Amérique, quoi. Et ça, c'est vrai que c'est toute une génération. La génération d'après-guerre qui se met à découvrir. Alors attention, il y a eu cette espèce de parenthèse pendant l'occupation et mon père, n'ayant pas connu l'avant-guerre, il n'a pas cette mémoire. Mais le jazz n'est pas nouveau en France. À Paris, alors peut-être pas dans les campagnes, ça aussi, mais à Paris, il y avait des jazzmen. Mais il y a eu cette espèce de coupure et tout d'un coup, on redécouvre. Et on le redécouvre en plus de ça. Ce sont les vainqueurs. Donc, avant, peut-être que, là, je ne suis pas un expert, je ne suis pas historien, mais l'image que les Français avaient de l'Amérique avant-guerre était sans doute celle d'aventuriers qui sont partis, qui faisaient parfois fortune. Mais, tandis que là, ils nous dominent, quoi. Et il y a cette espèce de complexe d'infériorité qu'on va se traîner, qu'on traîne encore peut-être d'une certaine façon, et à juste titre, d'ailleurs, enfin, à juste raison. Mais, on comprend ça à travers le regard de mon père. Et après, la France, l'Europe a découvert tout d'un coup qu'il existait un autre monde et qu'il nous avait dépassé.
Alors, on parle de choses plutôt rigolotes et plutôt drôles et agréables pour l'instant, mais le livre Gaston Normandie nous rappelle aussi que la Normandie et les Normands ont énormément souffert du débarquement. C'est à la fois une libération, mais c'est aussi des combats très durs, donc pas d'Embailleux, mais tout autour. Il y a des milliers de réfugiés sur les routes, il y a des villes entières qui vont être rasées. Donc, ils sont peut-être pas au courant de tout, les gens de Bayeux, ce qui se passe autour, mais en tout cas, ils voient arriver ces réfugiés, ils voient arriver ces gens, ils voient des Anglais, des Américains qui disparaissent, qui sont morts dans des bombardements, dans des combats. On a tous en mémoire le jour le plus long, ce film, ou bien des films tournés dans les années 60 sur la guerre, où la libération, on ne voit pas cette horreur. Or, la Normandie a été durement, durement frappée. Et ça, tu le rappelles très très bien, et c'est bien rappelé par la préface d'Olivier Gieborka au début, qui est donc un historien certifié, j'allais dire, qui a fait une préface très intéressante. Ta grand-mère se souvenait très très bien de ça, visiblement, de tous ces malheurs et de toutes ces choses terrifiantes qui l'ont entourée.
C'est-à-dire que ma grand-mère, elle n'a jamais été historienne, elle n'a jamais fait un travail de recoupement, mais ayant vécu l'événement, je veux dire, ses souvenirs sont des... Oui, on peut toujours se dire que les souvenirs peuvent se transformer, se déformer, mais de fait, non, comment dire, ils étaient au courant, parce que de toutes les façons, ils voyaient les réfugiés débarquer à Bayeux, et l'histoire, enfin moi j'ai un peu une vision de l'histoire comme... Là, si on voulait connaître l'histoire, avoir une connaissance totale de l'histoire, il faudrait connaître la vie de toutes les personnes qui ont participé, donc de la petite comme de la grande. Et c'est cette somme-là. Et c'est vrai que quand on raconte l'histoire officielle, on a tendance à ne retenir que les dates officielles, les gouvernants ou les rois ou je ne sais quoi, puis les grandes batailles et puis les grandes lois qui auraient été votées. Enfin, des espèces d'événements comme ça, mais qui ne représente pas la réalité quotidienne de la vie des gens. Et c'est même assez étonnant parce que, d'ailleurs, il y a une lettre, je reproduis une page d'une lettre qu'elle écrit. Il y a un épisode que je ne raconte pas, mais qui est intéressant, c'est que ma grand-mère, je pense qu'elle a... Ça a été très émouvant pour elle, elle a eu très peur. Et en fait, elle écrivait des lettres à son frère et à ses parents. Et ma grand-mère, donc, à cette époque, vivait à Bayeux, mais elle est originaire du sud-ouest de la France. Donc en Haute-Garonne, pas loin du Gers, et elle écrivait des lettres à sa famille, mais comme elle était de l'autre côté du front, le courrier ne pouvait pas partir. Mmh. pratiquement tous les jours, elle écrivait une page. Et ce courrier n'est pas parti avant 6 mois, enfin, quand le front ensuite s'est déplacé, elle a réussi à tout envoyer. Et c'est parti en un seul bloc. Et ce bloc de lettres, on les a retrouvés dans les années 70, vers 75, je crois. Et dans la famille, alors je les ai fait éditer par une association locale de collecte de mémoire de la région. Mais on retrouve des informations qui sont parfois assez étonnantes. Et alors, la page que j'ai reproduite dans Gaston en Normandie, elle raconte à son père, ne venez pas, il va se passer des choses terribles. On est donc quelques jours avant le débarquement. On ne sait pas où, on ne sait pas quand, mais il va y avoir quelque chose. Et c'est dommage parce qu'il fait très beau. Et puis, elle raconte un peu des histoires de sa famille. Et je veux dire, les gens savaient, se doutaient que quelque chose était en préparation. Alors, pour tout dire, mon grand-père paternel travaillait au chemin de fer. Donc, il était chef de district à Bayeux. Et je pense que, c'est ce que raconte d'ailleurs mon père, il voyait bien en Normandie que les trains étaient systématiquement mitraillés, et qu'il y avait des opérations pour que les trains ne passent pas, les renforts ne passent pas. Donc, voilà, il savait bien que quelque chose allait se produire, ou en tout cas, est-ce que c'était purement des opérations d'enfumage ? Voilà, ça, bien sûr, on ne sait pas, c'est avec le recul qu'on sait que ça s'est passé là. Et voilà, il sentait bien qu'il y avait des choses, enfin, on était en situation de guerre, et je pense que les Allemands aussi savaient que quelque chose se tramait, mais sans savoir trop quoi et comment.
Je parlais au début de cette façon de raconter l'histoire. On parle souvent d'histoire chorale, de choses comme ça, pour désigner certaines narrations. Mais là, j'ai trouvé qu'on était vraiment dans une histoire qu'on pouvait appeler chorale, parce que c'est comme un morceau de musique. Il y a un récit global qui est le livre, mais chacun a son propre rythme, chacun a sa propre tonalité. Et comme tu disais, l'ensemble fait que ça raconte l'histoire de ce moment-là, à cet endroit-là. C'est quelque chose d'assez agréable et d'assez rare, je trouve, dans la narration de l'histoire.
Bon, ça me fait très plaisir parce que quelque part, là, c'est le travail du romancier, pour le coup, et plus de... Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas uniquement un livre dans lequel je collecte des témoignages et que je colle, que je mettrai bout à bout. J'ai moi-même découpé pour qu'il y ait une progression, pour que les choses se répondent, que les illustrations répondent à l'histoire et qu'il y ait des révélations, des événements. Enfin, il y a toute une... Et ça, c'est un travail... C'est pour ça que ce n'est pas un travail d'historien. Quelque part, c'est un travail peut-être de... On m'a posé la question plusieurs fois, est-ce que j'étais un mémorialiste ? Oui, je collecte la mémoire, mais c'est pas l'objectif n'est pas seulement de collecter la mémoire. L'objectif est d'inviter vraiment le lecteur à rentrer dans une histoire avec un début, une fin, avec des révélations. Et donc, c'est aussi un roman. C'est quelque chose qui est un ouvrage qui est assez hybride.
Il faut qu'on parle de la façon dont il est fabriqué. J'aime bien employer ce mot-là pour ce livre. Donc, il y a ta grand-mère, ton père. Des fois, toi, tu apparais. Il y a une petite photo qui est là. Tout ça, c'est agrémenté avec soit des gravures, soit des coupures de presse, soit des photos d'époque que tu as collectées dans les archives américaines, anglaises, allemandes. Ça, c'est le côté matériel. Il y a le côté immatériel qui est la collecte des témoignages. Moi, j'ai jamais fait ça. Quand j'ai fini Gaston en Normandie, je me suis dit bon sang de bonsoir. J'aurais bien aimé, moi aussi, enregistrer mon père ou mes grands-parents. Et ça, c'est une chose assez exceptionnelle, du point de vue humain, j'entends.
Et c'était ma première, ma démarche initiale, parce que ça, c'est très ancien, pour le coup, bien avant d'avoir idée de le mettre sur papier. C'est quelque chose que je faisais donc dans les années 80, quand j'avais à peu près dans la vingtaine. C'était d'enregistrer mes grands-mères, mais parce que j'avais plus de grand-père, hein, pour collecter la mémoire familiale. C'est quelque chose qui... Voilà, pourquoi j'avais cette motivation? Pourquoi dans les familles, il y en a toujours un qui s'intéresse à la généalogie et pas les autres? C'est des questions toujours étonnantes, enfin, intéressantes. On a des motivations personnelles. Voilà, ça, c'était... Ces enregistrements, je les avais, ils préexistaient. Et c'est en découvrant des ouvrages édités chez Fulbelub, notamment le bouquin de Grégory Jarry, L'os du gigot, dans lequel il fait une sorte l'autobiographie en roman photo, une sorte de d'autobiographie d'événements comme ça. Et puis, par ailleurs, un autre bouquin qui s'appelle « Les maquisards du Poirier », qui est un ouvrage à plein de maladresses, parce que ce sont des enfants d'une école primaire qui l'ont fait dans le cadre d'un atelier, et dans lesquels les enfants ont été interrogés, les vieux du village, pour qu'ils racontent comment ils ont vécu la guerre. C'est uniquement les têtes, les visages des personnes, donc c'est assez statique. C'est pas. Et puis, dans les bulles, il y a le texte. Et c'est là où j'ai fait la connexion entre tout ça, et je me suis dit, ah, mais ces fameuses histoires de ma grand-mère, notamment sur le débarquement, que je trouve émouvantes et puis intéressantes, et que j'aimerais bien traduire autrement que sur une cassette audio qui, en plus de ça, dans un tiroir, prenait la poussière et risquait de disparaître. Et je me suis dit, bah, tiens, je vais le mettre sur papier, le transcrire sur papier de cette façon-là. C'est le point de départ. Avec, j'ai rajouté les images d'archives. Ça, on rentre dans une autre dimension. L'expression roman photo, bon, c'est évident que quand on ouvre Gaston à Paris, c'est quasiment, pas exclusivement, mais c'est à 95% des photos, puisque j'utilise beaucoup de photos de la période de 1944, des photos essentiellement qui viennent de fonds militaires, mais il peut y avoir aussi toutes sortes d'autres documents. Ça peut être des gravures, des dessins, des dessins de presse ou je ne sais quoi, et des peintures. Et dans Pauline à Paris, il y a beaucoup plus de gravures, parce qu'on remonte au 19e siècle. Et en fait, mon travail ressemble beaucoup à un ouvrage qui s'appelle « Les damnés de la Commune ».
Oui, tout à fait.
En fait, moi, je me sens mais complètement en face. Les damnés de la Commune, c'est le bouquin que j'aurais aimé faire. Alors, l'intérêt des damnés de la Commune, c'est qu'il a un fond qui est iconographique, qui est hyper homogène. Et en zoomant, il va faire apparaître des personnages. Bon, il y a tout un travail que je trouve génial. L'intérêt d'avoir un narrateur, d'abord, bon, il y a un avantage technique, c'est que quand on ne sait pas trop comment illustrer quelque chose, on met la tête de la personne qui le dit. Donc, ça permet des fois de faire passer lisser ou de faire des transitions. Bon, mais l'autre chose, c'est qu'on a quand même ce narrateur qui donne de la chair, c'est-à-dire qu'on est dans la réalité. Et la photo, on est dans le concret, là. On donne l'impression que la personne existe, que ce qu'elle nous dit, c'est vrai, puisqu'elle est là, puisque je la vois. En fait, si ça se trouve, c'est un acteur. Alors, il se trouve que moi, dans mes ouvrages, je n'ai pas fait ça. Mais j'y ai pensé, à un moment donné. Est-ce que je ne vais pas aller photographier un acteur qui, ça sera tellement plus facile que d'aller interroger son père qui n'est pas toujours facile de parler, de faire parler, qui en plus de ça n'est pas quelqu'un qui aime trop déballer sa vie, et le photographier, c'était pas simple. Alors, j'aurais pris un acteur, ça aurait été tellement plus simple. Et voilà, ça aurait été une sorte de biopic ou je sais pas trop quoi. En tout cas, c'est un moyen d'expression, ce roman photo qui est beaucoup plus riche que ce que l'on a tendance à penser quand on considère que le roman photo, c'est soit de la romance à l'eau de rose, nous deux, les années 70, soit du détournement, de l'humour, le professeur Choron, flûte glaciale. Parce que justement, pourquoi ça marche pour l'humour? C'est parce qu'il y a un décalage complet entre la photo qui est de la réalité et le texte que je mets dans la bulle. Et d'ailleurs, je pense là en disant ça à mes collègues, là, auteurs de romans photo chez Fulbelup, qui vont faire des ouvrages de fiction. Et c'est souvent un peu soit, fantastique ou un peu science-fiction, parce qu'il suffit de mettre une bulle pour faire parler un radiateur, quoi.
Et
on est dans le décalage. Alors, ce décalage, ça peut servir pour faire de l'humour, mais ça peut aussi servir à être dans le concret et à faire du témoignage.
Oui, parce que le fait que tu mettes ton père et qu'on sache, parce qu'on le sait dès le début, ça rajoute beaucoup de chair, beaucoup d'humanité à tout ça. On sait que c'est la véritable personne qui a vécu ces événements, qui les raconte. Ça change tout, ça.
Oui, c'est ça. On rentre tout de suite dans l'intimité et on peut aussi faire des choses extrêmement personnelles. Voilà, puisqu'on est là, on est réel. Alors, il y a aussi autre chose, et ça, c'est Grégory Jarret qui m'avait souligné ça. Un dessinateur, imaginons la même chose en bande dessinée avec un... On aurait reproduit le narrateur qui parle, mais sous forme de dessin. Ça existe. Hein. C'est quelqu'un qui est prisonnier, qui est attaché à un radiateur. Et toute la bande dessinée, c'est le même type dans la même pièce, attaché à son radiateur. Enfin, donc, il existe des bandes dessinées qui sont comme ça, très statiques. Mais l'intérêt de la photo, qui peut avoir un côté un peu étrange ou moche, des fois, il faut toujours un certain temps pour rentrer dans ce type d'ouvrage. On n'est pas toujours habitué. L'avantage, c'est que quand on voit des photos du fils, du père, du grand-père, de la grand-mère, on triche plus là, on triche plus avec du dessin. Et ça, c'est une force sur lequel, ben, finalement, j'ai joué sans trop le. Quand je l'ai fait, c'était pas vraiment conscient, mais il y a des planches où il y a des moments, des images qui ont une force parce que c'est de la photo. Mais ces images peuvent être du dessin, peuvent être de la photo, mais peuvent être des hybrides. Il y a énormément de choses possibles, quoi.
Benoît, le temps passe et on est arrivé au terme de notre entretien. Je te remercie vraiment beaucoup d'avoir passé ces minutes avec moi pour parler de Gaston en Normandie. C'était enrichissant et je trouve que ça donne vraiment envie de regarder ce livre et surtout de le lire et de le posséder dans sa bibliothèque. C'est important.
Merci beaucoup de m'avoir invité.
Bah non, c'est un vrai plaisir. On ne se connaissait pas, donc c'est encore... Les rencontres, c'est des choses importantes. On fait aussi ce métier pour ça. Donc, je rappelle, donc tu es Benoît Vidal. Le titre de ton livre, c'est Gaston en Normandie. Donc, c'est un roman photo, mais c'est un roman photo hybride dans lequel il y a des gravures, des dessins. Et ta grand-mère et ton père qui nous racontent leur guerre. L'éditeur, c'est Fullable Up. Ça fait 155 pages. Et c'est au tarif de 20 euros. On trouve ça dans toutes les librairies un peu sérieuses.
Dans beaucoup de librairies.
Bulle d'histoire. Bulle d'histoire avec Stéphane Dubreuil.
Waouh!
Une émission à retrouver le mardi et le samedi à 10h30.